Les œuvres de miséricorde corporelles. Écoute-moi, mon ami, dit Jésus, je te parlerai en ce moment d'une chose très importante. Je t'énumérerai les œuvres de miséricorde, qui sont l'exercice de la charité. Elles sont bien chères à mon cœur et très importantes aux yeux du juge suprême. Il ne te demandera compte que de la pratique de ces œuvres, rien d'autre, car en elles réside l'exercice de la charité la plus complète. C'est pourquoi, je t'en prie, n'attends pas le jour terrible du jugement de Dieu, mais juge-toi toi-même par avance et agis conformément à ce code. Chaque jour qui passe est pour toi un pas de plus vers la reddition des comptes. Mais un bon commerçant n'attend pas la fermeture de son négoce pour en vérifier la marche. Maintes fois, il contrôle ses comptes et chaque soir, il fait le bilan de sa caisse. Fais de même, toi aussi. Faites de même, vous aussi. Si un examen plus approfondi est possible une fois seulement, surtout au cours d'exercices spirituels ou des missions, une révision sur un défaut particulier est possible le soir, au cours d'un rapide examen des consciences, et il est même prudent de le faire chaque jour. Donner à manger à ceux qui ont faim. Je commence, dit Jésus ainsi, par la première des œuvres des miséricordes, qui est si facile à exercer. Donner à manger à ceux qui ont faim. Et j'ajoute immédiatement la seconde, qui est tellement semblable à la première, donner à boire à ceux qui ont soif. Heureux es-tu, toi qui as sans cesse la possibilité de pratiquer cette œuvre des miséricordes tous les jours et plusieurs fois par jour. Il suffira seulement qu'à une action si commune et que tout le monde pratique, tu ajoutes une intention droite, un peu d'amour. Toi, tu prépares le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les membres de ta famille. Eh bien, accomplis ton devoir en lui donnant une motivation d'amour, non seulement humaine, mais supérieure et divine. Et toi-même, presque à ton insu, tu t'enrichiras de mérite. Cependant, regarde bien autour de toi. Peut-être ne te manque-t-il rien, et as-tu la joie d'inviter à table tes enfants et tous ceux qui tu aimes, de leur servir un bon potage, de goûter avec eux un pain savoureux et d'autres mets encore. Mais penses-tu à ceux qui ont moins que toi, à ceux qui n'ont rien et qui souffrent la faim? Tu te rends-tu compte que ce qui t'est donné et dont tu dois remercier la providence divine n'est pas destiné qu'à toi seulement, et que ton superflu doit servir à celui qui en a besoin. Te rends-tu compte que devant Dieu le gaspillage devient une véritable faute? Chaque année dans le monde, on fait comme une chaîne de bonté, et l'on recueille des secours pour ceux qui souffrent au loin. Cette œuvre sociale est très chère à mon cœur, dit Jésus. Aider tant de malheureux est vraiment de ma part un désir, un commandement. Dieu pourrait les aider directement, mais l'exercice de la charité sociale est trop important pour que je vous en dispense. L'humanité est ma famille, la famille de Dieu, et je me réjouis de voir cette aide réciproque qui remplit mon cœur de tant d'allégresse. Ne soyez pas sourd à ces invitations à aider, même si vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites parviendra à destination. Moi, je regarde le cœur avec lequel on donne, peu importe si quelque chose se perd en route. Toi, tu donnes par amour pour moi et de tout ton cœur, cela suffit. Combien méritoire est l'œuvre de ceux qui, sacrifiant une partie de leur temps et de leur confort, se rendent dans les lieux des douleurs, hospices et hôpitaux, à l'heure des repas, pour aider les vieillards ou les malades. Très souvent, ceux-ci ne manquent que de la force nécessaire pour accomplir l'acte matériel de manger et de boire, et ils y renoncent s'il n'y a pas une personne pleine de bonté pour pour les aider. Béni soit cette œuvre. Tandis qu'elle soulage le corps et les nourrit, elle apporte une aide morale aux malades et les réconforte. Que de fois, enfants et adultes souffrent en ces lieux de la faim et de la soif, et c'est moi qui souffre en eux, dit Jésus, parce que personne ne les aide ou ne les comprend. Il y a d'autres choses que je veux t'apprendre qui sont très simples et très belles. Quand tu es assise à table et que tu sers le tien, n'oublie pas de remercier le Seigneur pour ce qu'il te donne. Adresse-lui une pensée qui devienne une prière en faveur de ceux qui n'ont rien, afin que le Père éternel pourvoie à leurs besoins. Et songe aussi que tu es invité chaque jour à un autre banquet, où moi-même, dit Jésus, je te donne mon corps en nourriture et mon sang en breuvage. Pense aussi qu'un jour tu participeras au banquet éternel du ciel. Bienheureux serez-vous si vous avez invité à votre table les pauvres, les déshérités, les malades, les besogneux, car vous les avez aidés dans les limites de votre possible et avec beaucoup d'amour. Bienheureux serez-vous, car vous vous entendrez dire « Venez, le béni de mon Père ». Venez jouir de la récompense qui vous a été préparée de toute éternité, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Vêtir ceux qui sont nus. Écoute, mon ami, dit Jésus, la leçon que tu vas commencer sera la continuation de la leçon précédente sur les œuvres de miséricorde. Vêtir ceux qui sont nus. C'est aussi une bonne œuvre, tellement facile à pratiquer et à laquelle je désire que tu fasses très attention. Avant tout, je te donne un conseil qui te servira beaucoup à pratiquer cette charité et c'est le suivant. À chaque saison, remets de l'ordre dans tes armoires. Ôte ce qui est devenu inutilisable pour toi, soit à cause de la forme, soit à cause des mesures. Ne laisse pas les mythes détruire ces vêtements, mais donne-les à tant de pauvres qui n'ont pas la possibilité de suivre la mode, ni les moyens d'acheter des habits convenables. N'aie pas la manie d'emplir les tiroirs et ne sois pas gaspilleux. Habille-toi selon ta condition, sans faire des dépenses excessives et inutiles, aux dépens du budget familial. Conserve avec ordre et propreté ce que tu possèdes afin de pouvoir toujours t'habiller avec correction et même avec bon goût et simplicité. N'oublie pas qu'à votre époque, on réalise rarement l'apostolat de la parole s'il n'est accompagné par celui de l'habillement. Je t'explique. Une personne qui se présente de manière négligée devant son prochain est déjà désagréable par elle-même. En outre, je t'affirme que l'ordre extérieur exprime un certain ordre intérieur avec lequel il va presque toujours de pair. Ce n'est pas pour rien que vous dites que l'ordre conduit à Dieu. Je te le répète, habille-toi avec dignité et simplicité selon ta condition, pour plaire à ton mari, à tes enfants, et n'exclus même pas Dieu. Demande-toi si tes vêtements peuvent plaire à Dieu et si tu peux rester en sa présence sans avoir honte de ton habillement. Maintenant, on n'accorde plus d'importance à la modestie et à la pudeur qui faisaient rougir les jeunes filles lorsqu'elles se présentaient en public en tenue succincte n'existe plus. On oublie que la concupiscence de la chair n'est pas morte, et si Ève, après le péché, s'est crue obligée de couvrir son corps, depuis lors ni la loi morale, ni les inclinations au mal et à la luxure, par l'intermédiaire de la chair, n'ont cessé d'exister. C'est pourquoi il reste toujours l'obligation de se défendre contre tant de dangers auxquels les inclinations mauvaises ouvrent le chemin. Combien chères à mon cœur sont les personnes qui, tout en s'habillant selon les habitudes de leur temps, maintiennent certaines limites et deviennent même un objet d'admiration pour les autres, prêchant ainsi par leur bon exemple. C'était là une brève parenthèse pour t'aider à développer les sujets dont je t'ai parlé au début et pour te donner la possibilité de le mettre en pratique. Que celui qui a deux tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, disait mon précurseur Jean-Baptiste. Soyez généreux, mes enfants, dit Jésus, n'ayez pas l'ambition de devenir des porte-manteaux auxquels on suspend sans cesse des vêtements de tout genre et de toute mesure. Rappelez-vous que votre vêtement doit servir à couvrir votre corps, lequel a été plusieurs fois consacré à Dieu. C'est pourquoi il faut tout traiter avec respect, aussi bien le corps que le vêtement. Comme elle était admirable, ma sainte maman, dans sa simplicité, sa modestie et son ordre. Comme je voudrais qu'en limitant les jeunes filles, les épouses et les mamans apportent au monde des pensées de ciel, d'anges de pureté et de bonté. Élégance et modestie ne sont pas contradictoires. Pour toi, je fais allusion à une dernière chose. Lorsque tu donnes ce qui t'est superflu, fais bien attention de les donner avec amabilité. Que tout soit propre, convenable et utilisable, et surtout que ton don soit accompagné par la pensée d'accomplir cette œuvre de miséricorde, laquelle sera récompensée par Dieu dans les cieux où il te revêtira de gloire. Héberger les pèlerins, les sans-abri. Écoute, mon ami, mes enseignements, dit Jésus, je continue à te parler des œuvres de miséricorde. Nous nous arrêterons un peu sur ces sujets, héberger les pèlerins et les sans-toit. Je t'en parlerai brièvement, moi qui naquis dans une étable justement parce que personne ne voulut héberger ma sainte maman, laquelle, comme tu le sais, était allée avec Joseph à Bethléem pour les recensements. C'est ainsi que cela devait arriver, c'est ainsi qu'avaient parlé les prophètes, mais je t'assure, que grande fut pour moi la douleur de me sentir refusé de tout le monde. Eh bien, cette douleur se renouvelle encore deux fois pour moi. Quand je demande aux hommes de m'héberger, parce que je désire rester avec eux, demeurer dans leur cœur, sous leur toit, on ne m'accueille pas. On n'accueille pas ma parole. On ne veut rien savoir de ce que je désire ou de ce que je commande. On renouvelle encore pour moi l'amertume du refus quand on n'accueille pas avec charité ceux qui frappent à la porte de votre maison pour avoir du secours. Si tu ne peux pas donner l'hospitalité toujours et à tout le monde, étant donné l'époque, les conditions et les situations actuelles de chacun, par prudence aussi, vu l'abondance des crimes et la méchanceté qui règne dans le monde, il n'était cependant pas défendu d'user de bonté dans ta manière d'agir et de parler avec tout le monde. C'est même un devoir pour toi. Le blâme et les houspillements ne servent à rien. Si tu fais réfléchir celui qui se trompe et si tu le reprends avec douceur et amabilité, il est probable que ta parole accompagnée de ma grâce apportera son bienfait et touchera le cœur des hommes. Rappelle-toi toujours qu'un orage ne fait jamais de bien là où il tombe. Quelquefois, au contraire, il provoque des dommages irréparables. Si tu peux secourir les pauvres qui te sollicitent, fais-le toujours et de tout ton cœur, en te souciant seulement de l'édifier par ton comportement, de l'aider spirituellement par une bonne parole, et si tu ne peux le faire, en me le recommandant. En outre, lorsque par intérêt ou par nécessité, vous accueillez chez vous des étrangers, traitez-les comme vous désireriez vous-même être traité chez les autres. Que l'affabilité, la douceur, unie à la sévérité, donnent à vos hôtes l'impression de se trouver dans une maison où le christianisme est vécu dans son intégrité et où tous ceux qui l'habitent sont invités à le pratiquer. Celui qui accueille en mon nom les plus petits d'entre les miens, c'est moi-même qui l'accueille, vous ai-je dit. Oh, mes chers enfants, comme je voudrais vous persuader que pour être heureuse, votre vie doit être très simple, surtout votre vie morale et spirituelle. Ne compliquez pas les choses, Agissez par amour pour moi, pour contenter mes désirs, pour gagner le paradis, cela vous suffit, c'est tout. De même qu'un regard limpide donne la lumière à tout le corps, de même l'intention droite donne vie à vos œuvres. Elle leur donne lumière, valeur, et les rend agréables à Dieu. Ce n'est pas l'importance de l'œuvre, mais l'amour avec lequel elle est accomplie qui transforme même une petite action en une œuvre divine et digne des récompenses éternelles. Ne l'oublie jamais. Visitez les malades. Écoute, mon ami, dit Jésus, nous continuons la brève réflexion sur les œuvres de bonté et de miséricorde. Nous essaierons de réfléchir sur la charité qui consiste à visiter les malades. À quel point cette œuvre est utile, tu peux le comprendre par le fait que moi aussi, je l'ai exercée sur une grande échelle, car les malades formaient l'un des centres d'attraction de ma vie et l'un des motifs de ma venue sur la terre. Je disais en effet, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, même si c'était surtout les malades en esprit dont j'entendais parler. Mais on atteint l'esprit qu'en faisant du bien au corps, et moi je guérissais les corps pour atteindre l'âme, l'éclairer par la lumière de la foi et la transformer. Toi, tu dois m'imiter, et s'il n'était pas possible d'opérer des miracles de guérison lorsque tu t'approches du lit d'un malade, songe que ta visite et ta parole peuvent apporter paix, réconfort, sérénité, espérance à une âme qui peut-être est dans le désespoir et plus encore dans la douleur morale que dans la douleur physique. Suis donc les bonnes inspirations. Quand tu te sens désireux de faire du bien, souviens-toi que c'est là un bien véritable, béni et désiré par moi. Je bénis les pieds de ceux qui vont auprès des nécessiteux et leur apporte, outre le petit cadeau matériel qui peut être une petite chose mais exprime l'affection, les dons immenses de ma lumière, de mes enseignements, la joie de ma rencontre avec ces âmes que je chéris. Appelle-moi auprès de toi quand tu vas rendre ces visites si précieuses, et moi je t'accompagnerai, et je mettrai sur tes lèvres les paroles qui conviennent, je réchaufferai ton cœur afin qu'il puisse comprendre les besoins d'autrui et les soulager. Écoute volontiers le récit de leur misère et de leurs maux. Laisse-les parler, car tous ceux qui souffrent n'ont pas tellement envie, généralement, d'écouter les autres, mais ils ont besoin d'épancher leur cœur en confiant tout ce qu'ils ressentent et subissent. Écoute donc beaucoup et parle peu. Puis fais dévier la conversation sur des sujets religieux. Parle de mon amour aux malades. Dis-leur combien précieuses sont leurs souffrances. Dis-leur que leur vie n'est pas inutile, mais précieuse. Tu diras que tout le monde sur terre a besoin du malade, car si la maladie est acceptée, offerte, elle devient la monnaie avec laquelle se rachètent les âmes. Il est certain que tu ne dois pas te mettre à prêcher, mais recommande-toi beaucoup à ces malades. Fais-le avec conviction, persuadé d'avoir besoin d'eux. Ainsi, peu à peu, tu leur feras comprendre l'utilité de leur existence et de leur maladie pour le bien de la famille, de l'Église et de la société. Je t'assure que ceux qui approchent les malades dans cet esprit en retireront des grands avantages moraux et spirituels au point de se sentir vraiment leurs débiteurs. Rappelle-toi, ma maman, la Sainte Vierge, dès qu'elle eut appris de l'ange que sa cousine Élisabeth se trouvait dans le besoin. Elle affronta un voyage long et malaisé avec beaucoup d'amour et courut auprès d'elle pour l'aider. Elle ne prêta attention ni à sa propre personne ni à ses conditions, mais elle vola pour ainsi dire tellement elle se hâta d'aller là où la charité l'appela. Toi aussi, va donc avec beaucoup d'amour et dans cet esprit auprès de ceux qui sont dans le besoin et dans l'impossibilité de se subvenir. Rends-toi utile. Si tu t'aperçois que cela fait plaisir, même sur le plan matériel, agis avec simplicité, sans faire remarquer ce qui peut être déficient dans la maison, sans modifier l'ordre des choses afin de ne pas paraître vouloir commander. Fais tout avec amabilité, douceur et sérénité, sans heurter, sans te donner une importance exagérée. Sois observateur afin d'interrompre ta visite dès que tu te rends compte qu'elle occasionne de la gêne ou de l'ennui. Parle avec délicatesse, n'élève pas la voix. Ce n'est pas une preuve de bonne éducation. Que le malade et ceux de la maison comprennent que tu n'es pas venu chez eux pour bavarder inutilement, mais pour accomplir un devoir chrétien. Que de joie tu ressentiras dans ton cœur si tu peux, par tes paroles, ouvrir la porte au prêtre afin qu'il m'apporte, moi Jésus, dans l'Eucharistie. Et que de reconnaissance tu obtiendras au ciel de la part de ces âmes que tu auras assistées et soignées et à qui tu auras peut-être fait retrouver la lumière de la foi et ma grâce. Tous les saints ont eu à cœur cette belle œuvre de miséricorde et l'ont pratiquée. Leur amour et la compassion qu'ils éprouvaient devant tant de misères étaient si grands que très souvent je leur accordais d'accomplir des miracles de guérison. Que ta foi soit si grande qu'elle me contraigne à opérer encore des guérisons miraculeuses, sinon dans le corps, du moins dans l'âme. Et rappelle-toi que les secondes sont plus importantes et plus grandioses que le premier. Visitez les prisonniers. Écoute, mon ami, dit Jésus. Tu es toujours dans ma maison parce que le monde entier est à moi. Je vais te parler, quoique brièvement, d'une œuvre de miséricorde qui te semblera difficile à pratiquer, alors que souvent toi aussi, te rappelant mes paroles, tu pourras l'accomplir par amour pour moi. Je vais te parler de la visite aux prisonniers. Avant tout, je dois te dire que le premier incarcéré ou prisonnier, c'est moi, qui ai choisi le tabernacle pour prison. C'est ma prison où je demeure volontairement enfermé, mais où j'attends avec un esprit désireux de consolation et d'amour tous ceux qui viennent me faire don de leur cœur et en même temps de leur affection et de leurs sentiments. Je suis un prisonnier d'amour qui, du tabernacle, écoute les appels au secours de mes enfants et leur donne grâce et faveur. Moi, je désire ardemment que mes enfants viennent auprès de moi. Je veux les aider tous, car tous ont besoin de moi. La plus grande partie de mes enfants, qui vivent même près de moi, ne daignent m'accorder ni un salut, ni un regard. C'est pourquoi je t'en prie, toi du moins, vous du moins, qui connaissez mes désirs, venez me rendre visite. Nous resterons ensemble, nous ferons des doux colloques. Moi, je vous donnerai tout moi-même, et vous, vous vous donnerez à moi. Il s'établira entre vous et moi une amitié profonde, riche de joie, d'espérance, de foi, d'amour. Chaque jour, visitez ce prisonnier qui s'est fait pauvre par la folie d'amour pour les hommes ingrats et oublieux. Ceux-ci disent, en me tournant encore le dos comme les Juifs, « Quelle parole prononce cet individu? Il nous donne sa chair en nourriture et son sang en breuvage ?» Il reste avec nous et il veut que nous restions avec lui. Nous ne comprenons pas ce mot. Et pourtant, malgré cela, moi je les aime tous, et c'est en vain que j'attends beaucoup d'entre eux. Moi je suis prisonnier, mais il y a beaucoup d'âmes prisonnières qui attendent de vous les secours pour être libérées de leurs chaînes. Ce sont les âmes esclaves du démon et du péché. Enchaînées par leurs mauvaises habitudes, elles les aiment et ne savent s'en détacher. Elles sont les enfants des ténèbres qui gisent dans les péchés en danger de mort éternelle. Les démons qui les tiennent enchaînés sous sa domination, à leur mort en fera sa proie si tu ne cours pas à leur secours. Tu as bien compris de qui je veux te parler, les pécheurs, les pécheurs. Je t'en prie, par tes invocations, porte-moi auprès de ce genre de prisonniers, afin que je puisse les libérer et qu'ils ne soient pas ensevelis dans la prison éternelle de l'enfer. Rappelle-toi que si tu m'aimes, tu dois m'aider à accomplir cette œuvre merveilleuse des saluts qui me tient tant à cœur. Dans tes prières, n'oublie jamais les pauvres pécheurs. Je vais te parler d'une autre catégorie de prisonniers auxquels j'en suis sûr tu ne penses jamais. Ce sont les petits-enfants, enfermés dans les seins maternels, dans l'attente de venir au jour. Moi aussi, j'ai voulu passer par ce chemin, et je t'assure que le sein de ma mère n'a pas été une prison pour moi, mais un tabernacle où j'opérais sa sanctification, car sans cesse elle m'aimait et m'adorait, et la sanctification du monde. Mais les petits enfants enfermés dans le sein maternel et encore sous la domination du démon ne pourront voir la lumière éternelle s'il ne leur est pas accordé de recevoir le baptême. Trop de mamans font obstacle à ce don en faveur de leurs enfants et les empêchent d'atteindre la vision béatifique des dieux. De nombreuses mamans méprisent l'honneur de la maternité et tachent leurs mains de sang. Priez, mes enfants, pour toutes les mamans qui portent en elles une nouvelle créature que personne ne peut leur permettre de tuer, que libérée de sa prison temporaire, elle puisse vivre, grandir, connaître et aimer le Seigneur par qui elle a été créée. Prie pour les mamans dans l'attente, pour celles qui mettent des enfants au monde, afin qu'elles soient généreuses et prêtes au sacrifice, confiantes en Dieu, et afin qu'elles aiment leurs enfants dès le moment où elles les portent en leur sein. Combien il est douloureux pour beaucoup d'enfants devenus grands d'apprendre que leur maman ne voulait pas qu'ils vivent et reçoivent le don le plus précieux, celui de la vie divine dans les saints baptêmes, don qu'elle-même a reçu gratuitement. Et maintenant, je vais te dire un mot sur les prisonniers proprement dits. Tu te souviens rarement de prier pour eux, et pourtant c'est une œuvre tellement utile et tellement juste. S'il n'était pas possible d'aller les trouver, car les lois modernes ne permettent certainement pas à tout le monde de rendre visite à ceux qui, pour des motifs divers, se trouvent en prison, tu ne dois cependant pas oublier la charité que tu dois remplir envers eux de différentes manières. Tu peux envoyer des bons livres et des bons journaux qui peuvent susciter des bonnes pensées dans ces âmes. S'étant trompées, elles peuvent par la réflexion se raviser et se convertir. Très souvent aussi, dans ces lieux de peine où l'aumônier est l'unique personne qui puisse entrer pour dire une bonne parole, le voisinage de l'un avec l'autre ne serait-ce qu'à travers le mur de la cellule ou durant la courte promenade de quelques mètres, ce voisinage est délétère même pour les moins mauvais qui absorbent des idées de rébellion et de défaitisme. Occupe-toi d'eux, mon ami, au moins en priant chaque jour pour eux, afin qu'ils se ravisent et puissent ne pas être doublement esclaves du démon et des hommes. Qu'ils puissent se réhabiliter lorsqu'ils auront purgé leur peine et s'insérer à nouveau dans la société. Il existe en outre des institutions qui prennent soin des enfants des prisonniers, les élèvent, les éduquent et leur trouvent une situation. Dans les limites du possible, aide ces institutions si précieuses pour que ces enfants, très souvent tarés, n'aient pas à grandir avec les penchants de leurs parents. Il y a d'autres œuvres qui s'occupent des prisonniers qui, ayant purgé leur peine, sortent des prisons et sont heureux de voir fonctionner ces œuvres charitables. Car si beaucoup d'entre eux ne récidivent pas, c'est parce qu'ils ont rencontré de bonnes âmes qui les ont aidés à se réhabiliter. Comme tu le vois, je t'ai donné ample explication d'une bonne œuvre que tu croyais peut-être impossible à pratiquer, alors que tu peux l'exercer sur une grande échelle. Ensevelir les morts. Mon ami, dit Jésus, nous continuons les leçons sur les œuvres de miséricorde. Je vais soumettre à ton esprit la dernière des œuvres de miséricorde corporelle. Ensevelir les morts. Ne crains pas, mon ami, que je veuille te faire peur à la pensée de te trouver en contact avec les cadavres afin de leur donner une sépulture honorable. Tu verras qu'il n'est pas tellement difficile d'accomplir ce que moi-même et mon Église nous enseignons. Quand tu suis un enterrement et que tu prends part à la douleur de celui qui a perdu quelque personne aimée, tu accomplis cette œuvre. Jadis, les funérailles et les cérémonies funèbres étaient de véritables offices religieux qui, grâce à la prière, apportaient un réconfort non seulement aux défunts, mais encore à ceux qui restaient. Maintenant, tout a été ramené à une pure formalité par la plus grande partie des personnes qui entendent par là accomplir un acte de bonne éducation et rappeler leur présence à ceux qui restent. Cette œuvre de miséricorde est très agréable à mon cœur. Par ton bon exemple, tu dois t'efforcer d'y donner et d'y apporter cette empreinte chrétienne qui sert à raviver la foi. Avant tout, je t'avertis que si les larmes ne sont pas à condamner, car moi aussi j'ai pleuré maintes fois durant ma vie mortelle, le désespoir et tout ce qui le manifeste extérieurement est à condamner. En tout, même devant la douleur, les chrétiens doivent garder une attitude exemplaire. Tu sais que la mort n'est pas une fin en soi, mais qu'elle ouvre la porte de la vie éternelle. Si vous les croyez et si vous voulez rendre compte que sur la terre vous traversez une période d'épreuve plus ou moins longue, toi, tu comprends tout de suite que l'on ne peut regarder la mort en face avec crainte, mais que l'on doit se préparer à la rencontrer, afin que la conclusion de la vie terrestre et le commencement de la vie céleste soient la joyeuse accession au but. C'est pourquoi Saint Paul avertissait les premiers chrétiens en leur disant « Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas la foi. » Que l'on donne au corps une digne sépulture, c'est l'un de mes désirs, car vos corps ont été consacrés, un jour ils ressusciteront glorieux et triomphants pour ne plus jamais mourir. De même, en ornant les tombes des fleurs et des lumières, on donne une marque de foi, car on montre que l'on croit à la résurrection. Cependant, n'oublie pas qu'au-dessus de ces choses matérielles ou de pair avec elles, tu dois mettre ce qui peut apporter un avantage spirituel à tes défunts, soulager les peines du purgatoire et aider ces âmes à atteindre la patrie bienheureuse. N'oublie pas que la justice de Dieu est infinie, et si avec trop de facilité, vous basant sur votre jugement, vous pensez que vos êtres chers ont atteint la gloire et que pour cette raison vous les oubliez, vous courez le risque de les laisser souffrir beaucoup plus longtemps en purgatoire. N'oublie jamais ceux qui te sont chers. Si par la suite ils n'ont plus besoin de suffrages, ils recueilleront tes prières et prieront pour toi, tandis que tes suffrages iront au profit d'autres âmes, et toi tu te feras de nombreux amis. Rappelle-toi que, même en cela, tu seras mesuré avec la mesure dont tu auras usé pour les autres. La visite au cimetière m'est agréable aussi. Là, tu peux prier pour tout le monde et t'arrêter pour méditer sur le néant des choses qui passent, sur la brièveté de la vie et l'incertitude de l'heure. Tu peux en arriver à ces pensées par la diversité d'âge des personnes ensevelies, mais ne donne pas à cette visite une valeur supérieure à celle de l'accomplissement de tes devoirs religieux au point de la faire passer avant cela. Que la visite au cimetière soit le but de tes promenades du dimanche, mais rappelle-toi qu'elle ne doit remplacer ni la messe ni l'enseignement religieux. Moi aussi j'ai été déposé dans un sépulcre neuf préparé pour moi, et dès l'aube du troisième jour, Marie et les saintes femmes étaient venues pour m'embaumer. Par là tu peux avoir confirmation de l'utilité de tout ce que je t'ai dit, et que ce que vous faites pour entourer vos défunts d'affection à la lumière de l'espérance en la résurrection et de la foi en la vie future, cela m'est agréable. Je te rappelle la signification d'un geste que généralement beaucoup de personnes font lorsque leur conjoint ou un ami ou une connaissance a été déposé dans la fosse. En général, on a l'habitude de jeter une poignée de terre sur le cercueil. Cela devrait signifier l'œuvre de miséricorde dont je t'ai parlé, ensevelir les morts. Faites en sorte que ce geste aussi, insignifiant par lui-même, soit spiritualisé.